Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel. Il est 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Kantner. Bonjour à toutes et à tous. L'émotion au Bénin après l'attaque qui a visé mercredi une position de l'armée dans le nord, dans la zone dite du triple point. 28 soldats ont été tués. Pas de communication officielle, mais de nombreuses réactions dans la classe politique notamment. Nos dernières infos dès le début du journal et dans la deuxième partie d'Afrique Midi, nous appelons Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Il est notre invité. Nouvelle poussée de tension entre Alger et Paris après le renvoi en France d'un influenceur algérien qui venait d'être expulsé. Inacceptable pour le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dénonce une volonté d'humiliation de l'Algérie. Et puis les sports du football, dernier de son groupe en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe n'a plus le droit à l'erreur pour ses deux derniers matchs de poule. Premier d'entre eux ce soir à Alger face au Mouloudia. Pas de réaction officielle au Bénin, 48 heures après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 28 militaires dans la zone dite du triple point. Pas de communiqué du gouvernement ni des forces armées, Jean-Luc Aplogan, mais une vive émotion dans l'opinion publique et dans les partis politiques, toutes tendances confondues.
Oui, Nicolas, bonjour. L'attaque de mercredi est condamnée ici à l'unanimité. Pour le parti d'opposition Les Démocrates, il s'agit d'une tragédie nationale de grande ampleur. Les deux grands partis du Cantalon, le Bloc Républicain et l'Union Progressiste pour le Renouveau, rendent hommage aux soldats tombés et appellent à l'unité et à la solidarité. Le président de l'Assemblée nationale a publié également un message dans le même sens. L'opposition réclame à Patrice Talon un deuil national de 3 jours et lui recommande d'avoir une approche régionale dans sa lutte contre le terrorisme. Comprenez, c'est une invitation à travailler avec le Niger et le Burkina Faso, deux pays de l'AES et 16 autres voisins. Patrice Talon n'en fait pas assez, estime le leader du mouvement. Demain, il fera beau.
Alors voilà pour les réactions. 48 heures après l'attaque, Jean-Luc, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ?
Pour le bilan, les sources militaires en restent toujours à 28 soldats tués, mais ce bilan pourrait évoluer. Tout dépend de l'état dans lequel se trouvent les rescapés, sur qui aucune information n'est disponible. Actuellement, l'armée informe les familles des victimes sur ce qui est arrivé. Selon nos informations, le chef d'état-major de l'armée de terre et le commandant du théâtre d'opération sont en route pour le point triple, là où l'attaque a eu lieu. Les 28 soldats tués, tous grades confondus, appartiennent aux effectifs de l'opération Mirador, dispositif antiterroriste créé en février 2022, et Mirador compte environ 3000 hommes. De bonnes sources, on apprend également que Patrice Talon devrait avoir une rencontre avec la hiérarchie militaire.
Jean-Luc Aplogan, direct de Cotonou, dans la deuxième partie d'Afrique Midi. Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, est notre invité. Les relations entre Paris et Alger sont mauvaises et un nouvel épisode l'illustre depuis hier. Un influenceur algérien établi en France a été expulsé vers l'Algérie après une vidéo dans laquelle il appelait à la violence contre des opposants. Mais cet homme a été renvoyé en France dans la soirée. Le ministre français de l'Intérieur est furieux. Pour Bruno Retailleau, je le cite, « L'Algérie cherche à humilier la France ». Baptiste Coulon, tout d'abord. Qui est cet influenceur ? Que lui reproche-t-on exactement ?
Alors c'est un influenceur algérien de 59 ans, très actif sur TikTok. Il se fait appeler Doualemn. La France l'a expulsé hier après-midi en raison d'une de ses vidéos dans laquelle les autorités lui reprochent, je cite, de mener un appel à la torture visant notamment un opposant au régime actuel en Algérie. Son titre de séjour lui est retiré. Son expulsion est ordonnée par arrêté ministériel alors qu'il devait être jugé dans quelques jours. Sauf qu'hier soir, eh bien, l'Algérie l'interdit de territoire. Nouvelle expulsion vers la France cette fois. Et depuis hier soir, eh bien, il est placé dans un centre de rétention administratif en région parisienne.
Alors pourquoi l'Algérie a-t-elle refusé l'entrée sur son territoire à cet homme ?
Alors c'est là que ça se complique. Il faut évoquer la question du laissez-passer consulaire. C'est un document indispensable pour exécuter l'expulsion d'un étranger vers son pays d'origine quand il n'a pas de passeport. C'est ce pays qui doit délivrer ce laissez-passer. Sauf que l'Algérie rechigne à accorder ce document. Un document qu'il n'était n'était même pas nécessaire d'obtenir, selon Bruno Retailleau, car cet influenceur est un ressortissant algérien. Son passeport biométrique le prouve, selon le ministre français de l'Intérieur, qui assure ce matin que les autorités algériennes sont en totale contradiction avec les règles. Cette passe d'armes est en fait surtout une nouvelle étape dans la dégradation des relations diplomatiques entre Paris et Alger, renforcée encore ces dernières semaines par l'incarcération en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.
En République démocratique du Congo, la guerre qui oppose les forces congolaises et leurs alliés au groupe M23 et à l'armée rwandaise dans l'Est était hier soir au cœur d'une conférence de presse des autorités à Kinshasa. Devant les médias, le porte-parole de l'armée, le porte-parole du gouvernement et la chef de la diplomatie ont fait le point. Et d'abord, Pauline Azidi, sur le plan militaire, avec des détails sur les opérations des derniers jours.
Oui, c'est le porte-parole de l'armée congolaise qui a fait donc le point hier à la télévision nationale sur les opérations. Il a donc évoqué le retour du groupe armé M23 dans la localité de Massissi Centre, mais les combats se poursuivent, ajoute le général Ekenge. L'objectif de cette contre-offensive lancée depuis lundi de la part de l'armée congolaise, c'est de reprendre du terrain du M23 à l'origine de la rupture du cessez-le-feu selon Kinshasa. Le responsable militaire a confirmé que le FARDC était bien de retour à Gungu, cité localisée à une trentaine de kilomètres de Sake. Sake, considéré comme l'un des verrous sécuritaires de Goma, la capitale provinciale.
Alors voilà pour les opérations militaires, mais les autorités ont aussi évoqué le front diplomatique.
En effet, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, s'est félicitée de plusieurs déclarations des chancelleries occidentales ces derniers jours qui condamnent l'offensive du M23 et qui appellent une nouvelle fois au retrait des militaires rwandais. La ministre qui a aussi insisté sur le dernier rapport des experts de l'ONU qui avance, lui, le nombre de 3000 à 4000 soldats rwandais déployés en territoire congolais au nord Kivu. Et dans ce front diplomatique, il y a le front médiatique sur lequel a insisté cette fois-ci le ministre de la communication Patrick Mouyaya. Un avertissement a été lancé aux médias sur le traitement de la guerre dans l'Est. Le ministre qui a aussi annoncé le retrait des accréditations des journalistes du média qatarien Al Jazeera. En cause, la diffusion d'une interview d'un des responsables du groupe armé, Bertrand Bissimoua, réalisée par ce que Kinshasa qualifie de propagandiste pro-Kagame. Une ligne rouge, a rappelé le ministre congolais.
Et le rapport du groupe d'experts dont vous parliez, Paulina, pointe donc l'implication de l'armée rwandaise aux côtés du M23. Il pointe aussi l'accaparement organisé des ressources minières de l'Est congolais. Ce serait même l'une des principales sources de revenus du M23, Alexis Bédu.
Le M23 exporte environ 120 tonnes de coltan par mois selon le dernier rapport semestriel des Nations Unies. L'exploitation se fait principalement sur le site minier de Rubaya, cité passé sous le contrôle du groupe armé en avril 2024. Selon l'ONU, une administration parallèle y a été instaurée pour réglementer l'extraction, le commerce et le transport des minerais. Jean-Paul Okenda est expert sur la gouvernance du secteur extractif en RDC.
On apprécie le fait que le rapport vient en cette fois, en tout cas de manière assez formelle, confirmer ce que nous savions et qu'à un moment donné, le Rwanda ne pourrait pas supporter le coût de la guerre seule. On parle de l'Ubaya ici, qui est un des sites les plus importants dans la région. Et donc, on savait que la prise de l'Ubaya répondait justement à cet objectif-là de Rwanda de soulager ce coût, de permettre justement quand même à maintenir les supplétifs d'M23 et même aussi permettre justement à la rébellion de faire fonctionner son administration locale.
Selon les experts, le M23 prélève d'importantes taxes sur les activités minières générant environ 800 000 dollars par mois uniquement par la taxation du coltan. Ces taxes visent les creuseurs artisanaux, les commerçants, les transporteurs, le groupe armé s'octroyant également le monopole des exportations de minerais dans les zones qu'il contrôle.
À Kigali, au Rwanda, pas de réaction formelle aux conclusions du nouveau rapport des experts de l'ONU. Mais le président rwandais, Paul Kagame, a tout de même évoqué la situation dans l'Est congolais hier face à la presse, Lucie Mouillot.
Sans répondre directement au dernier rapport des experts de l'ONU, selon lequel entre 3 et 4 000 soldats rwandais sont présents à l'est de la RDC, une allégation que Kigali a toujours démentie, pour le président Paul Kagame, la question est ailleurs.
If anybody thinks Rwanda is in DRC,
si quiconque pense que les Rwandais sont en RDC, pourquoi le seraient-ils ? Ils devraient se poser cette question. Pourquoi ? qu'est-ce qui est arrivé au FDLR ou qu'est-ce qui est arrivé aux raisons qui ont mené des milliers de réfugiés ici.
Le chef de l'État a de nouveau souligné son engagement à défendre à tout prix la sécurité de son pays, notamment face au FDLR composé à l'origine d'anciens génocidaires hutus rwandais. Revenant sur l'annulation de sa présence au sommet de Luanda en décembre, le président dénonce le refus catégorique de la RDC d'un dialogue direct avec le groupe armé du M23.
Ils disent « pas question, ce sont des terroristes, nous ne leur parlerons jamais ». Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas prêts à trouver une solution politique à un problème interne, mais qu'ils veulent continuer de mettre ce problème sur le dos du Rwanda.
L'effort mené pour trouver une solution doit continuer, affirme le président rwandais, mais dans d'autres conditions, dénonçant l'importance accordée aux apparences plutôt qu'aux résultats. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Les assaillants voulaient me vitrifier, propos tenus par Mahamat Déby. Le président tchadien s'exprimait hier soir sur les réseaux sociaux, 24 heures après une attaque contre la présidence. Des images des caméras de vidéosurveillance de cette attaque ont aussi été diffusées à la télévision tchadienne, Victor Moria.
Diffusées par la télévision nationale, les images montrent un groupe d'hommes attaquer à l'arme blanche plusieurs gardes de l'une des entrées de la présidence. Malgré les sommations, on y voit un militaire être lynché par plusieurs coups de lance et de machette, tandis que d'autres hommes pénètrent à l'intérieur du complexe présidentiel. Les gardes, dépassés en nombre, sont obligés de battre en retraite. Deux d'entre eux y laisseront la vie, selon le procureur de la République. Public. Depuis hier, le gouvernement affirme avoir rapidement repris le contrôle de la situation. 18 des 24 assaillants ont été tués, les 6 autres ont été faits prisonniers. C'est ce qu'explique notamment le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamallah.
Les personnes vivantes de cette attaque ont commencé à parler. C'est une bande de pieds nickelés. C'est vraiment pas une attaque d'envergure, c'est une attaque qui n'aurait jamais pu mettre en péril la sécurité de l'institution présidentielle ni la sécurité du gouvernement.
Dès le lendemain de l'attaque, les déclarations en soutien au président Déby se multiplient de la part de politiques comme l'ancien Premier ministre Albert Paimi Padaké et son parti le RNDT Le Réveil ou encore le RDP de l'ancien ministre Mahamat Alaou Taher. L'actuel chef du gouvernement, Alamaï Alina, appelle également le peuple tchadien à rester soudé. Quant au président Mahamat Déby, il salue la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Il est 13h42, N'Djamena.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, la Guinée-Conakry suspend les partis politiques qui n'ont pas les autorisations administratives nécessaires. L'Éthiopie relance aujourd'hui une bourse des valeurs. Et les sports, le tout-puissant Mazembe joue gros ce soir à Alger face au Mouloudia. En Guinée, le gouvernement suspend les partis politiques qui n'ont pas d'autorisation administrative. Toutes les formations vont devoir se mettre en règle avant la fin du mois. Afin de préparer les élections à venir cette année, comme s'y est engagé le président de la transition, Mamadi Doumbouya, Sidi Yansané.
Dans son communiqué, le ministère de l'administration du territoire déplore la prolifération des partis sans autorisation administrative et exige la fin de leurs activités. Revenant sur les résultats de l'évaluation des partis politiques l'an dernier, le ministre Ibrahima Khalil Koundé invite toutes les institutions et partenaires à cesser leur collaboration avec 54 partis suspendus. Ces derniers avaient 3 mois pour se mettre en règle, l'échéance est donc fixée à la fin janvier. Cette décision intervient 10 jours après le discours du nouvel an du général Mamadi Doumbouya. Le président de transition annonçait que 2025 serait une année électorale cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel, qu'il fixerait bientôt la date du référendum et que les formations politiques pouvaient reprendre totalement leurs activités. Hier sur RFI, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo précisait que le scrutin référendaire pourrait se tenir au mois de mai.
Au Sénégal également, les partis politiques au centre des attentions de l'exécutif qui veut supprimer toutes les formations qui ne respectent pas la loi de 1989 sur le fonctionnement des partis. C'était dans le programme du PASTEF de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Le meilleur encadrement des partis politiques, c'est un serpent de mer au Sénégal. Mais cette fois pour les autorités, il est temps d'agir, Gwendal Lavina.
C'est l'explosion de leur nombre 348 qui pousse aujourd'hui l'exécutif à se saisir du dossier. Lors de ses vœux, le président Bassirou Diomaye Faye a ainsi mis en cause l'application trop laxiste des textes en vigueur pour expliquer, je cite, la fragmentation excessive du paysage politique. Un avis partagé par le professeur Babacar Gueye, président du collectif des organisations de la société civile pour les élections.
Ça permettrait de rendre l'espace politique beaucoup plus visible, peut-être même beaucoup plus simple, parce que finalement, beaucoup de ces partis politiques sont créés pour servir de monnaie de change, pour négocier des positions ou négocier des moyens financiers. Et donc, pas vraiment pour faire la politique au sens noble du terme.
Tout le monde y gagnera, insiste encore Mundiaï Cissé de l'ONG 3D.
Nous avons toujours estimé qu'il fallait moderniser le système partisan. Il n'y a pas de raison que ça menace la démocratie si elle est inclusive, cette démarche. Aujourd'hui, on n'a qu'une loi sur les partis politiques, une loi de 6 articles qui n'a rien à voir avec nos réalités actuelles. Alors, il faudrait avoir un code des partis politiques, par exemple. Ça permet d'avoir des partis forts et des partis protégés par la loi.
Pas question, en tout cas, de passer en force. Des consultations sur le sujet doivent être lancées prochainement par l'exécutif. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
L'Éthiopie relance aujourd'hui une bourse des valeurs à Addis Abeba. Le pays n'en avait plus depuis la chute de l'empereur Haïlé Selassie en 1974. C'est un nouveau pas vers la libéralisation de l'économie pour tenter de lui redonner de l'oxygène et d'attirer les investisseurs, Claire Fage.
La création d'un marché d'actions en Éthiopie éloigne un peu plus le pays des principes d'économie dirigée qui ont prévalu pendant 50 ans. Ce n'est pas qu'une étape, cela marque la naissance d'une nouvelle Éthiopie, a même déclaré le directeur général de cette nouvelle bourse. Depuis 2 ans et la fin de la guerre au Tigré qui a fait 600 000 morts, vidé les caisses de l'État et entraîné un défaut de paiement de l'Éthiopie sur sa dette, le gouvernement d'Abiy Ahmed multiplie les gages d'ouverture de son économie pour attirer les financements. En juillet dernier, l'Éthiopie a laissé flotter sa monnaie, le BIR, en échange d'un prêt historiquement élevé du Fonds monétaire international, puis ouvert aux investisseurs son secteur bancaire et laissé les étrangers rapatrier une partie de leurs profits. L'enjeu pour Addis Abeba est de renflouer ses réserves de change et de transformer la croissance économique en emploi pour les jeunes, dont plus d'un quart est au chômage. L'introduction en bourse d'Ethio Telecom, dont le gouvernement a décidé de vendre 10% du capital, sera un test pour la nouvelle bourse des valeurs éthiopiennes. Les conflits larvés subsistant dans les régions Oromo et Amara, les difficultés à restructurer la dette éthiopienne pourraient cependant dissuader les investisseurs.
Les sports du football en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe n'a plus le droit à l'erreur. Dernier de son groupe, après 4 journées avec 2 petits points, le club de Lubumbashi se doit de remporter ses 2 derniers matchs de poule pour espérer se hisser en quart de finale. Première étape ce soir à Alger face au Mouloudia. Un défi que les Corbeaux, demi-finalistes de la dernière édition, se disent prêts à relever. Pascal Mwangala.
Mazembe n'est pas enterré avant le match face au Mouloudia d'Alger. Lamine Diaye et ses poulains comptent saisir la petite chance qui leur reste encore dans le tournoi.
On n'est pas venu ici pour nous promener. On est venu pour faire un bon match et on est venu pour vraiment se battre. Même si nous, on a encore une petite chance, on jouera cette chance-là à fond.
Les joueurs en sont tout aussi conscients et entre eux, ils ont eu le temps de se donner quelques consignes. Johnson Atibou est défenseur axial et l'un des cadres des vestiaires.
C'est la vie ou la mort et cela demande l'application de tout un chacun. Nous avons parlé entre nous par rapport aux défauts qu'on avait, tout ça, et qu'on va essayer d'améliorer ces défauts-là. Nous ferons un bon résultat.
Pour Albert Mbaya, un journaliste des sports de Lubumbashi, c'est désormais aux joueurs de tout donner sur le terrain pour renverser la tendance.
Ici, Mazembe doit puiser dans les noms, l'histoire, l'orgueil, tout ce que les joueurs peuvent donner chacun selon sa qualité. Il faudrait faire comme un orphelin qui a l'unique occasion pour relancer sa vie.
Côté supporter, l'espoir reste tout aussi permis. Les plus confiants se mobilisent d'ailleurs pour suivre le match ensemble dans des bistrots. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Mouloudia d'Alger, tout puissant Mazembe, coup d'envoi à 19h temps universel. L'autre match du groupe de cette 5e journée opposera Al Hilal d'Omdurman et les Young Africans dimanche. 13h49 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce vendredi 10 janvier.
Quelques progrès contre les flammes à Los Angeles, mais rien de certain car de nouvelles rafales de vent sont attendues dans les prochaines heures. Les incendies ont déjà fait 10 morts, détruit plus de 9000 maisons ou bâtiments. Des renforts militaires ont été déployés. Nicolas Maduro prête serment pour un troisième mandat aujourd'hui au Venezuela dans un climat très tendu. La capitale est bouclée par les militaires, la frontière avec le voisin colombien fermée au prétexte d'un possible complot international. La Colombie, comme de nombreux pays de la région ou d'Europe, ne reconnaît pas la victoire de Nicolas Maduro et soutient l'opposant Edmundo González Urrutia, qui est en exil. Le premier déplacement du nouveau président libanais sera pour la Syrie voisine. Joseph Aoun s'y rendra demain pour rencontrer les nouvelles autorités. Et puis dans l'actualité également, le seuil d'un degré et demi de réchauffement dépassé pour la toute première fois sur la planète. Ce seuil que l'accord de Paris sur le climat, les engagements pris en 2015 devaient permettre d'éviter. Cela devrait tous nous alarmer, dit le gouvernement britannique. 28 militaires ont donc été tués dans le nord du Bénin, on en parlait tout à l'heure. Bilan provisoire d'une attaque terroriste qui a visé une position des forces de défense et de sécurité dans la zone dite du Triple Point. Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur régional du Timbuktu Institute et de l'Observatoire des radicalismes et des conflits religieux en Afrique, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Bakary Samb.
Bonjour Nicolas.
A-t-on une idée de qui peuvent être les assaillants qui ont attaqué l'armée béninoise mercredi dans cette zone du Triple Point ?
Dans cette zone du Triple Point qui est dans l'intersection entre la frontière du Niger, du Burkina Faso et du Bénin, c'est-à-dire dans la commune de Malanville, tous les esprits se tournent vers le Jinim qui a commencé à faire des incursions dans cette zone-là le long de la route qui reliait naturellement les localités de Djero, de Tunga et de Madekeli sur l'axe Malanville vers le Nigeria. Ceci nous conforte dans l'hypothèse de l'intervention du Jinim qui de plus en plus essaye de trouver des bases dans cette zone-là en s'aidant avec le parc W et des éléments internes là où il est en train de chercher des couveuses locales pour développer son action et ses attaques contre le Bénin.
Mais à l'heure actuelle, est-ce que le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a des bases du côté béninois ou dans les pays voisins ?
C'est vrai que le Burkina Faso représente le point nodal de débordement de l'épicentre sahélien vers les pays côtiers à partir du parc W, mais aussi dans toutes ces zones vers Karimama, Banikwara. Et je crois que la stratégie aussi des djihadistes est de trouver des soutiens locaux, d'où l'importance qu'a comprise le gouvernement béninois en établissant un dialogue, notamment avec les communautés peuls récemment, avec la rencontre entre le président et les chefs de cette communauté-là. Je crois que aujourd'hui, on est dans la phase de harcèlement des forces de sécurité et de défense entamé depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui prend une toute nouvelle ampleur.
Mais il y a déjà à l'heure actuelle des Béninois dans les rangs du JNIM.
Des études que nous avons faites dans la région de l'Atakora, dans le département de l'Atakora, dans un récent rapport, établissaient un contact entre des éléments, ce qu'ils appellent les gens de la Bourousse, c'est-à-dire ces djihadistes établis dans la forêt, et des jeunes des communes voisines, ce qui montre qu'il y a aujourd'hui un agrégat de facteurs internes avec la communautarisation de la violence et l'ancrage local progressif et des facteurs exogènes qui sont liés à l'insécurité endémique dans les pays voisins comme le Niger, mais surtout le Burkina Faso, qui est le point nodal de ce débordement de l'épicentre, ce qui nous pousse vers l'hypothèse selon laquelle le Bénin est en train de devenir le nouvel épicentre côtier du terrorisme.
Oui, c'est-à-dire que pour vous, cette attaque est l'incarnation d'un phénomène dont on s'inquiète beaucoup depuis plusieurs années, l'expansion du djihadisme sahélien vers les pays côtiers.
Ce phénomène s'est enclenché depuis très très longtemps, mais en Afrique de l'Ouest, on avait commis l'erreur stratégique de déconnecter le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest, alors qu'il y avait des continuums socio-historiques à partir du Burkina Faso, à partir du Niger, et que vu la transnationalité de ce facteur-là, aujourd'hui on ne peut plus envisager, en tout cas évaluer la menace en partant des évaluations par pays, d'où la difficulté pour le Bénin aujourd'hui, qui se trouve à la frontière de pays en instabilité politique et en insécurité, alors que les mécanismes régionaux de coopération sécuritaire sont de plus en plus affaiblis avec le conflit qu'on connaît entre la CEDEAO et les pays de l'AES.
Alors le Bénin est confronté à des attaques depuis 2019. Pour y faire face, l'armée a déployé un dispositif sécuritaire spécifique, Mirador. On voit qu'il n'a pas réglé tous les problèmes, mais est-ce qu'il a tout de même porté quelques fruits, ce dispositif Mirador ?
Oui, Mirador a été un dispositif qui était bien conçu avec la gestion des urgences sécuritaires, la fusion de certains corps de la sécurité au Bénin. Mais les travers de cette opération ont été liés à la communautarisation de la violence, à la stigmatisation de certaines populations. De sorte que la cour de répression des infractions économiques et terroristes était devenue quelque part stigmatisée par les populations locales et que là, le risque pour les forces de sécurité béninoise était de perdre la bataille du renseignement qui est cruciale dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qui a certainement expliqué les dernières initiatives du président béninois en instaurant un dialogue avec ces populations-là qui sont habitées par certains ressentiments et des frustrations qui sont souvent exacerbées par des inégalités mais aussi la stigmatisation progressive de la communauté peul.
Pour vous, la réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire et militaire.
Il faut certes la gestion des urgences sécuritaires, mais il faut à côté travailler sur la résilience des communautés, mais surtout sur l'adhésion des communautés aux dispositifs sécuritaires. Autrement, on se retrouve dans le même scénario que dans le Sahel, où l'approche du tout sécuritaire a abouti à certains travers qui ont fait que les États, les forces de sécurité et de défense ont perdu la bataille du renseignement, ne sont plus en adéquation avec les populations locales. Et c'est justement ce que cherchent les groupes terroristes, avoir des couveuses locales dans les communautés pour continuer à agir à partir de points où ils peuvent de plus en plus étendre leur champ d'action dans cette région des pays côtiers.
Merci Bakary Samb. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Le riz est une céréale très consommée en Afrique. Le Sénégal, notamment, en apporte 1 million de tonnes chaque année. Mais si le riz est source d'énergie, il perd cependant sa valeur nutritionnelle quand il est transformé et blanchi. Pour combler ses carences, il est enrichi en micronutriments grâce à la fortification. Penaï Traoré.
Au Sénégal, la fortification concerne le riz local, un moyen de lutter contre la malnutrition et les carences en micronutriments, aussi appelé la faim cachée. Hassan Kofi est le directeur général de la Société sénégalaise filière alimentaire SFA. C'est son entreprise qui procède à l'enrichissement du riz par une méthode dite d'extrusion avec un produit appelé le kernel.
Ce sont des micronutriments, en fait, qui représentent tout ce qui est vitamine, tout ce qui est fer, le zinc. Donc, ça permet vraiment de pouvoir apporter une certaine enrichissement au niveau même du riz.
Le mélange du riz et du kernel se fait dans un dispositif spécial.
C'est un système de mélange avec le riz, du riz local, plus différents vitamines et minéraux compris dans le kernel. On a 1% de kernel et 99% en riz entier. Nous avons un mélangeur automatique qui permet déjà de faire le mélange en tant que tel. Donc, si vous n'avez pas déjà ce mélangeur, il serait difficile de pouvoir mettre à disposition ce riz fortifié.
Cette méthode de fortification ou d'enrichissement en minéraux existe déjà dans d'autres pays et s'applique à des produits de base tels que le mil ou encore le blé.
En octobre dernier, le Programme alimentaire mondial avait lancé un plan d'introduction du riz fortifié dans les cantines scolaires en milieu rural. Une initiative lancée d'abord dans la région de Matam, dans le nord-est du Sénégal, mais elle pourrait être étendue à d'autres régions du pays. Le but, améliorer les repas des enfants. Maïmouna Sissé est chef du sous-bureau du PAM à Matam.
Pour ce qui concerne les cantines scolaires dans lesquelles nous intervenons, c'est souvent du riz importé. Donc c'est du riz blanc décortiqué, traité et ensaché et vendu sur le marché. Alors que pour le riz fortifié, c'est du riz local acheté par le prestataire et qui est fortifié, c'est-à-dire enrichi avec des vitamines et des minéraux. L'objectif de cette initiative, principalement, c'est de promouvoir déjà la production de riz enrichi en nutriments, faciliter l'accès des groupes vulnérables tels que les écoliers à des aliments sains et nutritifs, de promouvoir les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles pour l'adoption d'un régime alimentaire sain et nutritif. Des recherches récentes ont montré que les carences en vitamines sont très courantes chez les enfants d'âge préscolaire, de 24 mois à 5 ans, mais également chez les enfants d'âge scolaire de 5 à 12 ans, affectant leur santé, mais également leur performance physique.
Maïmoun Assisé, chef du sous-bureau du PAM à Matam au Sénégal. Elle sera l'invitée de Penaï Traoré demain à 13h10 dans l'émission Un jour au village. Fin de cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À tout de suite.
Religion du monde. Véronique Guémard.
Qu'est-ce que le vaudou haïtien ? À l'occasion de l'exposition Zombie au musée du Quai Branly à Paris, nous remontons à ses racines africaines, au syncrétisme avec la religion catholique imposée par la force aux esclaves et avec les croyances des populations autochtones Taïnos, Caraïbes et Arawak.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Elsa Ramos, sociologue qui publie « Un anthropologue dans ma famille », véritable boîte à outils pour enquêter sur ces héros familiaux, nos chers grands-parents, comment reconstituer leur récit de vie à partir de photos, d'objets ou de questions parfois sans réponse.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur rfi.fr.